Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir d'aller à la rencontre d'un auteur que nous avons déjà reçu sur notre antenne, le professeur Jean-Jacques Pluchart, qui vient de faire paraître avec son collègue en duo Gérald Leclerc Choisir son activité, Parole d'entrepreneur, les métiers de demain chez Erol, un ouvrage de 316 pages, 22 euros. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour Monsieur Chambon.
Merci
infiniment de m'inviter aujourd'hui.
Heureux de vous retrouver sur notre antenne. Alors, vous avez fait paraître il y a un an un master stratégie chez ESCA en janvier 2009, qui a été particulièrement remarqué. Et vous récidivez donc cette fois-ci en duo. Entrepreneur, un métier, une vie. Alors, cet ouvrage répond à une attente partagée en ces temps difficiles par des millions d'acteurs de la vie économique et sociale, des étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi, qui souhaitent développer un projet en exerçant un métier indépendant ou en créant leur entreprise. Les cadres dirigeants salariés, d'ailleurs, y trouveront également une réponse à leurs préoccupations, tant pour leur projet personnel qu'en tant que pilotes d'entreprise socialement responsables et qui se doivent de pratiquer l'essaimage et le mécénat et d'accompagner les actions de reconversion de certains salariés. Alors, cet ouvrage est original à plus d'un titre et c'est aussi un guide. Alors, la première question que je voudrais vous poser porte sur justement cette originalité. En quoi ce livre est-il original, monsieur le professeur ?
Bien, tout d'abord, c'est une enquête de terrain qui a été réalisée par une trentaine d'étudiants d'Université Paris 1 au niveau master qui ont recueilli un certain nombre d'impressions, d'expériences de jeunes créateurs, souvent d'ailleurs issus de l'université. On sait qu'aujourd'hui, c'est une des priorités des pouvoirs publics que de susciter l'entrepreneuriat, de favoriser la création d'entreprises parmi les jeunes diplômés, notamment des universités. Donc cet ouvrage répond à un réel besoin de la part des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est plus qu'un catalogue des bonnes pratiques, ce qui est souvent le cas des très nombreux ouvrages qui paraissent actuellement sur la création d'entreprises. C'est aussi une cartographie des risques qu'encourent les candidats à la création et les jeunes créateurs. C'est une cartographie également des différents gisements, c'est le titre d'ailleurs de l'ouvrage, d'emplois indépendants et de jeunes entreprises innovantes, gisements qui se situent d'ailleurs à la fois dans les métiers traditionnels, puisque nous avons essayé de balayer une dizaine de métiers, mais naturellement aussi dans les nouveaux métiers liés en particulier au développement durable, au conseil, à la formation, au service à la personne. Ça, j'en dirai un mot tout à l'heure si vous m'interrogez sur ce point.
Écoutez, avec grand plaisir. Alors, je voulais rappeler, parce que je ne l'ai pas fait dans cette introduction, que vous êtes professeur à Paris 1 et que vous avez été, si je puis dire, de l'autre côté de la barrière, puisque vous avez été un dirigeant d'entreprise, que vous êtes diplômé de l'Institut de Haute Finance et un membre éminent du comité de présélection du prix Turgot, dont vous avez été en son temps le lauréat. Alors, votre collègue Gérard Leclerc est vice-président de l'incubateur Salvetera. Ça veut dire
oui,
quoi
c'est une, pépinière d'entreprise.
C'est une pépinière d'entreprise
qui a pour rôle de conseiller les candidats à la création, d'accompagner les jeunes créateurs et également de faire du portage salarial. Ce qu'on ignore aujourd'hui, les jeunes créateurs ne sont pas tous indépendants. Et certains sont salariés, ce qui limite un peu les risques, leur permet d'avoir une couverture sociale. Ils sont rémunérés au prorata de leur chiffre d'affaires, mais ils ont une structure à la fois juridique et organisationnelle qui leur est, je dirais, très favorable dans le cadre de cette action périlleuse tout de même, il faut le dire, qu'est la création d'entreprises.
Donc c'est une approche dans cet ouvrage qui réunit à la fois la logique universitaire et la logique des hommes de terrain et des praticiens. Ce que d'ailleurs vous-même vous êtes.
Oui,
vous
nous êtes avons une... en fait appliqué des méthodologies d'enquête, de recherche, conformément aux règles scientifiques qui sont appliquées au sein de l'université, mais nous l'appliquons à un terrain très concret et nous restituons l'ensemble de ces résultats des enquêtes de manière très pragmatique. C'est d'abord un guide pratique à l'usage des candidats à la création. C'est une ardente obligation nationale que la création d'entreprises, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Monsieur Chambon, parce que actuellement les groupes industriels, comme chacun sait, délocalisent d'une part, et que les administrations ne créent plus d'emplois, sinon en suppriment. Donc le seul générateur aujourd'hui d'emplois dans toute l'Europe occidentale, c'est la création d'entreprises. Le principal également facteur d'innovation. Donc, pour toutes ces raisons, il me semble que c'était une problématique qu'il fallait aborder, mais pas uniquement sous un angle réglementaire portant sur les différentes aides qui peuvent être accordées aux jeunes créateurs, mais également en termes de procédures, de création, en termes de ressources de toute nature, y compris humaines, à mobiliser pour pouvoir se lancer dans cette aventure de la création. Alors, on a assisté en 2009 à un phénomène tout à fait surprenant en France. Au cours des années précédentes, jusqu'en 2008, on comptait à peu près 200 000 à 300 000 créations d'entreprises. Et il y a eu une augmentation en 2009 de 75% des créations. Donc, il y a un bond à 580 000 créations dues en grande partie à la création de l'auto-entreprise.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, ça, c'est l'initiative, alors qu'il est à demi une création.
Il y a effectivement l'objectif de 300 000 créations a été atteint. D'auto-entreprise, puisque le chiffre de 2009 est de 320 000, mais il y aurait, parce que les statistiques ne sont pas encore complètement arrêtées, à peu près 40% d'auto-entreprises qui n'auraient pas encore exercé d'activité, donc qui n'auraient aucun chiffre d'affaires. Donc on peut craindre quand même qu'à partir de 2010, il y ait des radiations, des cessations d'activité, que le chiffre retombe à un niveau, disons, plus normal, enfin plus dans la tendance passée. Il faut quand même comparer ce chiffre de 580 000 aux 800 000 créations d'emplois en Allemagne et entre 400 et 500 000 au Royaume-Uni. Il faut également évoquer les cessations d'activité des PME, puisque la mortalité infantile de la PME est de 50% dans les 5 premières années, qu'il y a plus de 60 000 entreprises qui ferment leurs portes, qui déposent leur bilan chaque année, alors qu'il n'y en a que 35 000 en Allemagne. Donc cette vague de création, malheureusement, est encore compensée par une mortalité de jeunes entreprises.
Et précoce, une mortalité précoce.
Précoce, souvent dans la première année, faute de ressources suffisantes. Quand on parle de ressources, pas uniquement de ressources financières, mais également de ressources humaines. Et ça, c'est un des points forts de cet ouvrage. Nous insistons beaucoup sur les ressources humaines, en termes de compétences, notamment de connaissances, en termes de capacités de toute nature, à réunir pour pouvoir créer, avec un minimum de chances de succès, une entreprise ou un emploi indépendant. La différence entre emploi indépendant et entreprise, on a préféré quand même l'indiquer clairement. L'emploi indépendant ne comporte ni associé ni salarié. Donc le créateur est seul, en quelque sorte, par exemple dans le service à la personne, dans beaucoup d'emplois de commerce ou d'artisanat. L'entrepreneur, généralement, a des associés, sous des formes juridiques différentes d'ailleurs, et parfois et souvent des salariés. Donc c'est un peu la différence qui n'est pas complètement négligeable. Il y a plus de risques effectivement à créer une entreprise qu'à créer un emploi indépendant.
Donc on a passé en revue dans cette première partie ce qui était les perspectives de création d'entreprises en France. Vous avez évoqué assez largement le problème des ressources. Et donc à la limite, on en vient maintenant à ce qui suit toute création d'entreprise, ce sont les risques. Alors quels sont les conseils dans ce domaine que vous donneriez à un jeune entrepreneur qui aurait cet esprit-là et qui souhaiterait se lancer? Quels sont les risques, de toute façon, que tôt ou tard, il aura à affronter?
Oui, ces risques sont de nature extrêmement diverse. Ce sont des risques qui sont soit internes à l'entreprise elle-même, soit externes. Alors, en interne, ces risques sont stratégiques. C'est par exemple une erreur dans la conception du business model, modèle d'affaires, du produit, donc, en quelque sorte, qui va être mis sur le marché. Ça peut être un risque partenarial. On s'est associé à de mauvais partenaires. Quand on parle de partenaires, ce peuvent être aussi bien des associés que des fournisseurs ou des grands clients, les premiers grands clients qui vont être des prescripteurs. Risque juridique. Il peut y avoir effectivement des erreurs, des lacunes dans la mise en place de l'entreprise, dans la formalisation de tous les contrats. L'entreprise est un nœud de contrats. Risque d'exploitation, bien sûr. Risque commercial. On ne trouve pas la bonne niche de marché, mais aussi, bien sûr, risque financier, c'est l'insuffisance de ressources financières. Donc ça, ce sont les risques internes. Risque humain, c'est l'incapacité du créateur à faire face aux difficultés du fait d'une certaine faiblesse émotionnelle, ce qui n'est pas complètement à négliger. Risque externe, et là, on l'a vécu au cours des derniers mois, c'est la récession qui va bien sûr peser sur les ventes de l'entreprise et l'empêcher d'atteindre assez rapidement son point mort, c'est-à-dire son point d'équilibre entre ses recettes et ses dépenses, et qui va l'entraîner dans des demandes de nouveaux financements auprès des banques. Et on sait que là, cette récession s'est conjuguée avec une difficulté d'obtenir des concours bancaires.
Voilà, c'est ça. Donc il leur faut des filets de sécurité.
Voilà, il faut
deux filets de sécurité. Donc,
c'est
d'abord,
une des précautions à prendre déjà, c'est de disposer d'un minimum de ressources, puis d'une surcapacité minimale permettant de faire face à des difficultés imprévues qui sont de nature, comme je le disais, soit internes, soit externes. Il faut également avoir une capacité, ça c'est une ressource humaine essentielle, parce qu'on met souvent en avant les diplômes, les compétences, le savoir-faire, mais on avance assez peu cette capacité d'empathie qui consiste à pouvoir nouer aisément des relations et surtout les fidéliser, les partenaires de toute nature, constituer donc des réseaux à la fois d'accompagnement, de financeurs, sans négliger non plus le réseau familial lui-même, qui est un soutien très précieux dans les périodes difficiles. Donc le créateur pense s'affranchir de la hiérarchie d'une entreprise, mais en fait il tombe dans une certaine dépendance de tous ces réseaux de toute nature, familiaux, sociaux, financiers, etc. Et il ne doit en aucun cas créer seul son entreprise, même s'il lui semble que son business model, son idée, l'initiale est très vendeuse, qu'elle trouvera un grand marché. Il doit prévoir toutes sortes de filets de sécurité, que sont en définitive tous ces réseaux, et en particulier les réseaux d'accompagnement. D'où l'intérêt de la contribution du président de Salvetera, Gérald Leclerc, qui, depuis de très longues années, qui est d'ailleurs également le président fondateur de la société Fairtech, qui est un des grands pionniers des entreprises socialement responsables en France et qui traite tous les effluents Céveso des entreprises industrielles européennes. Donc c'est vraiment un homme qui connaît admirablement bien tout ce secteur et qui nous a été d'un très précieux concours dans la rédaction de l'ouvrage.
Écoutez, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez large et qu'on a donné envie à nos auditeurs de se procurer ce guide, car c'est avant tout un guide. Je voudrais, pour donner le ton de cet ouvrage, rappeler ce que vous dites dans votre conclusion générale. Le travailleur indépendant ou l'entrepreneur doit se comporter à la fois, je résume, en acteur social actif afin de s'enraciner dans des réseaux familiaux, etc., en acteur projet réactif afin de planifier les phases successives de son projet, en observateur proactif en pratiquant une veille technologique, etc., et en acteur citoyen en agissant en entrepreneur responsable. Sur ce dernier point, peut-être un ultime développement, c'est peut-être une dimension de la responsabilité du chef d'entreprise qui est, par les temps qui courent, de plus en plus mise en avant.
Tout à fait. Le fait de ne pas négliger la dimension éthique du management est essentiel, puisque de plus en plus, les relations dans le cadre de ces réseaux qu'on vient d'évoquer, notamment, les relations vis-à-vis du marché, vis-à-vis de la clientèle, reposent sur la confiance. La confiance se gagne difficilement, mais se perd extrêmement facilement, et souvent en raison de dérives de nature un peu éthique. Donc, on ne saurait que trop conseiller les jeunes créateurs, ou créateurs d'entreprises d'ailleurs moins jeunes également, de développer une entreprise socialement responsable. Enfin, c'est le message que nous prodiguons quasiment quotidiennement à nos étudiants.
Mais voilà un message,
dans le cadre des filières d'entrepreneuriat.
Voilà un message que nos auditeurs ont aussi retenu. Donc, je rappelle que c'était le professeur Jean-Jacques Pluchart qui vient de faire paraître en duo avec son collègue Gérald Leclerc. Parole d'entrepreneur, choisir son activité, les métiers de demain. Un guide remarquable sur tous les métiers. Une dizaine de métiers sont passés en revue. Qui est paru donc chez Erol, édition d'organisation. 316 pages, 22 euros. Monsieur le professeur, merci encore et ravi de vous avoir accueilli sur notre antenne.
Merci à vous, monsieur Chambon.
À très bientôt.